À tout à l'heure à midi, c'est le retour de
Laetitia Gaillet.
Avec Léla Cadeau,
bonjour,
et Jérémy Crédville, c'est incroyable, Pasturo, et non pas Tango Pasturi, par rapport à Alonso Star, c'est pour ça que j'ai eu la chance,
c'est joli,
tout ce beau monde pour accueillir André Lamy et Jean-Paul Roux,
incroyable, bravo, Jean-Paul Roux,
la vivacité quoi, à cet âge-là.
Sans auto,
incroyable.
Sans oreillette, rien. Prends-le à cet âge-là.
Ah, mais je plaisante, bien sûr.
Tu parles, tu plaisantes jamais, je ne sais pas, avec moi. Alors, nous allons parler du trésor du petit Nicolas.
Indochine.
Quel. Pourquoi ?
Il y aura Nicolas Sarkis ?
Ah, trésor.
On essaie pour s'entendre, Jérémy.
T'as pas de casque ?
Non, non, mais justement, je disais de mettre du son à fond dans le studio pour que j'entende.
Tanguy n'a pas de casque.
Mais c'est pas grave, je vais m'en passer.
Il perd parce qu'il n'a pas entendu.
Voilà, j'aurai une excuse.
Et s'il gagne sans casque, on va l'entendre parler pendant un petit moment.
Est-ce que là, t'entends ? Là, tu entends ou pas ?
Là, j'entends.
Ok, d'accord. Donc, qui chante ça ?
Daniel ?
Morgan ?
Daniel ?
Nicolas Perrac ?
Non.
Morgan ? Emmanuel Moir ?
Non.
Indochine.
Attends, il faut que t'arrêtes avec Emmanuel Moir.
Ouais, non, elle a raison. C'était Leïla la dernière fois.
Ouais, merci.
La guitare sonne comme la voix d'Emmanuel Moir.
La guitare, là, ça pourrait être n'importe qui, en fait.
C'est vrai.
Ouais,
c'est surtout n'importe quoi.
Si je te dis que tu meurs demain.
Chut. Ah, c'est ça. Vas-y, propose.
En tout cas, c'est une belle intro.
Oui, longue, hein.
Cabrel,
c'est le forestier.
Cabrel.
Oh oui, Mais oui. Attends.
Mais une fois, c'est Sanson, c'est Véronique Sanson.
On l'a reçu.
Leïla,
petit pays.
C'est Daniel,
c'est faux.
Il a dit petit pays. On régie, qu'est-ce que vous me dites ? C'est Jérémy ?
Oui, j'ai dit
Jérémy. Mais la régie a quelque chose contre moi.
Du tout,
je sais pas pourquoi.
Ah bah tout le monde a quelque chose contre
moi. Il faut dire bonjour le matin, Daniel.
Voilà.
À qui ?
Bah aux gens.
Sérieux ? Bah oui.
On peut écouter ?
Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence.
Ah, c'est parce qu'il y a petit dedans.
J'aimerais recommencer.
Exactement. Qui chante ?
Jérémy ?
Il a dit Jérémy, mais il a mis deux plombs à sortir.
Oh, tu peux parler.
Dis la vérité. Jérémy ?
J'allais dire petit biscuit pour dire une connerie.
Voilà,
mais
voilà.
J'avais vraiment
biscuit. Merci.
Petit
biscuit. Pas grave.
Pas grave, j'ai ta promo à faire.
Ouais, c'est exactement, je vais te la sabrer.
Ça fait deux points pour Jérémy Crédville, même s'il
triche. Ouais, ça en fait deux volets quand même.
Bah oui, voilà. Il les a
quand même. Laissez-le, c'est son moment.
Ah ouais.
Oh là là.
J'entends aucun prénom, on est d'accord. J'entends aucun. Non, mais ok, d'accord. Je vous suis sûr.
Non.
C'est pas François Zardy ?
Non.
Ah non, c'est pas Étienne Daho.
Est-ce que vous avez trouvé le thème déjà du
message
ou pas ? Bon, alors donc.
Bah oui.
Petit
bout de chou,
Jean Petit qui danse. Les petits.
C'est tellement facile.
Aznavour.
Non.
Jérémy.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Isabelle Boulay,
non ? Non.
Daniel. Sylvie Vartan.
Oui.
Et Nicolas.
Exactement.
Nicolas.
On peut arrêter.
Le petit Nicolas.
Ah, le petit.
C'est bon. Ça, c'est dansant.
Je savais.
Ce que j'ai chopé là-dessus. Bah, t'étais là.
T'as chopé quoi, des maladies, non ?
Oh, Nagui, je vous en prie. Je suis en souffrance.
Donc, vous l'avez compris ?
Depuis toujours.
Petit c'est ou petit ou Nicolas.
Ah, d'accord.
Voilà.
Leïla, petite rose.
Ouais. Petite fleur.
Fleur.
Ah, petite fleur. Qu'est-ce que c'est que ça, petit. Putain, deux points pour Daniel. Bravo, Daniel.
Sidney Béchette.
Ah. Ouais, qu'on fait du jazz maintenant.
C'est Fip, c'est Fip
quoi.
C'est Fip. Voilà. Fip.
Non.
C'est ton prénom quoi.
Si à l'hôtel parfois dans l'ascenseur.
Oh t'es méchant.
Dans les couloirs. Je suis méchant.
La pluie d'automne battait dehors.
Sa botte est changée.
Je signais avec personne. Elle ne s'approchait pas. Allait-elle venir ? Nul ne le savait.
C'est bien quand tu danses finalement.
Ah la méchanceté, j'adore.
Qui je suis réglé.
Leïla. Tanguy.
Ah ouais. Et on a même pas le temps.
La petite entreprise, Bachung.
Ouais. Voilà. Ouf. Là, le seul que je pouvais avoir.
Qu'est-ce qu'on me dit en régie?
Si, si.
Laila.
C'est Tanguy?
Non, c'est Laila.
Non, on me dit c'est Tanguy.
Mais non.
Bon, allez, c'est moi.
Bah, si, c'est la régie. Moi, moi, c'est...
Mais je l'avais pas,
Laila, Van Maiden.
La régie?
La régie.
C'est des chiens.
C'est des chiens.
J'ai même pas prononcé le nom de Bachou.
Déjà, petite
chose. J'allais dire ACDC.
Non, mais t'as dit Tanguy.
Oui, mais
j'allais dire ACDC.
Non, mais on dit son nom quand on veut répondre.
Ouais, c'est
oui,
c'est le principe, depuis le début.
J'adore dire ça.
C'est un piano?
Je suis fatigué en ce test. Trop d'informations.
On l'a reçu aussi.
Ouais, ouais, bah ouais.
Ouais. Votre prénom avant la réponse.
Non, non, on en a reçu tellement de gens.
Akhenaton, Morgan.
Non.
Mais non.
Je tente le petit frère.
Leïla, Julien Clerc?
Non. Mais c'est la famille.
Jonas Souchon?
Non, sa famille.
Florence Woolsey.
Miu Miu?
Non. Florence Woolsey.
Elle est super bien.
Leïla, Eddy?
Non.
Eddy Woolsey?
Il est mort.
Julien Doré?
Non.
Florence Becco?
Non.
Bon, c'est pas...
Leïla,
Jamie,
c'est William Scheller. Scheller.
Ah oui.
Mais alors, c'est
oui,
pas
mais
drôle.
Ça met trop
non,
de temps
c'est
entre les prénoms
c'est que,
et les
non,
trucs.
Le temps qu'on détermine qui a la bonne réponse. Mais c'est vrai, en plus, on a tous dit notre prénom en même temps.
Il n'empêche que je donne le point à Morgane.
Mais non, je le donne à Leïla. Non, ça me fait plaisir.
Merci.
J'ai pas besoin de ça, moi. J'ai pas besoin de points de Vital dans ma vie.
Tu as le point.
C'est vrai qu'on avait
fait
William Scheller.
Daniel, on a un Tanguy et Jérémy, on a deux. Attention,
les enfants.
C'est la finale. Le banco. Petit ou Nicolas qui chante.
C'est
Daniel.
C'est un petit Nicolas qui chante. C'est
Aznavour.
Non.
Non.
Aznavour.
Non.
Patrick Sébastien.
Non.
Nicolas Dedrussy.
Benjamin Mousse.
Non. Je veux l'interprète.
Daniel.
Tu te calmes.
Daniel, hein, Nicolas Perrac.
Non.
Non, je vais pas y arriver avec Perrac.
Nicolas Canteloup.
Non.
Nicolas Sarkozy.
Les A Cappella Boys.
Nicolas Dupont-Aignan.
Attention.
C'est Petit Biscuit.
Petit Lombal. Petit Lombal. Mais je dis petit. Florence Lombal.
Non.
Non, non.
C'est Leïla Damso.
Non.
C'est pas Damso.
Moi non, ne regardez pas.
Florence, mais on entend Gilles.
Non. Leïla Gims.
Non.
Personne. Ah, mais si, attends.
Est-ce qu'il y a trois lettres?
NTM. Mais non, NTM.
Il était dans IAM? Youssoufa?
Non.
Gradure?
Non.
Caris?
Non, 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 non.
Déjà,
c'est cool, chaîne.
Si Jean Gabin.
Déjà, le titre, c'est simple, c'est le petit Nicolas.
Lequel s'appelle Nicolas
Le titre, c'est le petit Nicolas.
Ah ouais, mais on connaît pas.
Mais l'interprète,
on est trop vieux.
On connaît lui, là. J'ai pas l'igno, c'est.
Ah, celui qui s'appelait Nicolas, comment?
Personne n'a trouvé. Ça laisse Jérémy Crédville.
Ah, bravo,
ça me va.
Et c'était qui alors, quand même?
La crime.
Ah, la crime. Ah,
ouais. Jérémy remporte le blind test.
Première
il a volé, mais il le remporte quand même.
Ouais.
Merci d'accueillir Audrey, l'ami et Jean-Paul.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Ravi de vous accueillir tous les deux. Êtes-vous en pleine forme, Audrey?
Oui, pardon.
Jean-Paul?
Il l'avait tous les deux.
On est en forme.
Il l'avait tous les deux, la crime.
Parfait. Non, personne l'avait, visiblement, autour de cette table. Vous êtes à l'affiche du trésor du petit Nicolas de Julien Rapneau. C'est la famille Rapneau, hein, parce que la musique, c'est Martin aussi qui a fait la BO. Et M chante le titre phare qui finit ce générique.
Les copains d'abord.
Son capitaine,
Florence M.
N'était pas son enfant. Salaud, mais des amis, Franco de Port, le copain d'abord.
Point de départ de ce trésor du petit Nicolas, et si le petit Nicolas déménageait, autrement dit, s'y perdait tous ses repères, tous ses
potes.
Bah
oui, le pauvre, c'est terrible, il y a papa qui a...
Une promo.
Il y a une promo et du coup ils vont devoir déménager. Donc pour lui
bagne.
C'est au bagne.
C'est drôle. Tellement drôle la vanne avec la scène au bagne.
Et
drôle.
Donc pour lui bah oui c'est dramatique, c'est tout son monde qui s'effondre. Il va quitter ses potes, sa bande. Et donc, il va trouver des solutions pour faire en sorte que ce déménagement ne se fasse pas.
C'est ça. C'est-à-dire que la solution pour que le déménagement ne se fasse pas, c'est d'avoir l'argent suffisant, en tout cas, pour éviter ce déménagement. Donc, trouver un trésor.
Exactement.
Et donc, il fait des passes.
À la recherche d'un trésor.
Et donc, quoi?
Donc, il fait des passes.
Non plus. Bien qu'il y ait du football dans, voilà. Dans ce film. Quel est le métier du papa du petit
Alors,
Nicolas?
C'est trop drôle. C'est ça. Ce que son fils lui demande, ce que tu fais comme métier papa.
Pour une rédaction.
Même lui, il a du mal à le dire.
il travaille dans un bureau et il a une agrafeuse.
Une gomme. Et il est malmené par ce patron incarné par Pierre Arditi.
C'est ce qu'on a quand on est mot. Moi, je me souviens, on a tout ça quand on est mot. C'est la force, je trouve, de l'écriture de Goscinny. Quand on est petit, ouais. On se dit, qu'est-ce qu'il fait ton papa? Ben, mon papa, il travaille, il part le matin, il rentre le soir. Tu racontes, tu dis ça, en gros. Et voilà. Et c'est vrai, c'est tellement vu par le prisme d'un enfant. D'ailleurs, on s'appelle, nos personnages s'appellent, on n'a pas de nom, c'est papa et maman.
Voilà. C'est vrai que les prénoms n'existent pas pour les enfants.
Non, il n'y a pas ça dans le petit Nicolas. Non. C'est ses copains, c'est son monde, donc c'est son papa, c'est sa maman.
C'est sa bande, les Invincibles, voilà. Évidemment, avec où ils gravent dans l'écorce des arbres leur logo, leur emblème, leur totem, avec ce prisme de l'enfance. Et comment expliquer que le petit Nicolas soit un tel succès depuis tant d'années, fou, en bande dessinée, au cinéma? C'est un carton.
Ça date des années, donc c'est toujours. C'est la France fin 50, début 60. Moi, je le découvre dans les années 70, c'est déjà plus mon époque, et pourtant, ça me touche parce que c'est universel, les thèmes sont universels. On a tous des copains et toutes les générations, on a tous des parents,
et
on a tous
des peurs. C'est plus un truc de garçon que de fille, le petit Nicolas?
Parce qu'on s'identifie, c'est une bande de copains.
Ouais.
Les filles, ils regardent un peu de loin, comme quand on a 10 ans, on regarde ça loin.
Loin ou très près, quand ils font le mur pour aller dans un lycée ou collège.
Mais on en a peur. Enfin, moi, je me souviens, à 10 ans, les filles, c'est un truc étrange, on comprend pas bien comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça?
Parce que maintenant, tu comprends maintenant, c'est ça.
Non, pas mieux, c'est vrai en plus. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai, on comprend pas mieux. On croit comprendre mieux, mais finalement, on comprend pas mieux.
Clairement. J'ai toujours peur.
Et votre personnage, Audrey, mais alors cette maman des années 60, le décor, le look, la dégaine, c'est formidable. Ouais, et en même temps, elle est très féministe.
Bah, elle est assez...
Dans la vanne du papa qui se fout dans le fauteuil avec je vais lire le journal, je suis fatigué, papa a travaillé. Là, il y a une sortie qui calme.
Non, mais carrément. Puis après, du coup, elle l'engueule. Et puis, du coup, elle se retrouve, elle, avec le journal dans le canapé à lui faire faire des tâches ménagères. Ça. C'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il a un peu bousculé le côté classique de la maman qui reste à la maison, qui s'occupe uniquement de l'intendance de la famille.
De faire cuire le poulet.
Donc, voilà.
Il y a une grande tirade sur la charge mentale.
Et c'est ce qui m'a plu, c'est que voilà, il a rajouté un peu plus de modernité sur ce personnage-là, qui évidemment, reste quand même dans le classique quand même. Il faut respecter aussi un peu les codes, donc. Mais à côté de ça, ben voilà, elle l'engueule, elle ment, elle le manipule complètement. Finalement, c'est elle qui porte elle un peu la famille, qui tient un peu qui porte la culotte.
Ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup. Ça part d'une bande dessinée existante.
Non, c'est original. Et c'est pas une bande dessinée, le petit Nicolas. C'est des nouvelles qui sont illustrées de temps en temps par Sampé. Mais c'est à la base, c'est un roman, enfin c'est des nouvelles. Et non, il a pas utilisé une des nouvelles, il a recréé en fait une histoire complètement originale, mais avec tous les personnages, avec tous les codes, parce que c'est Julien donc Rameneau, le réalisateur, qui est scénariste, un excellent scénariste, et qui est fou de Goscinny, qui a grandi avec ça, et qui est complètement imbibé de toute cette littérature-là.
Et qui dédie d'ailleurs le film aux petits-enfants de Goscinny, exactement. Si ma exactement. Mémoire
est bonne. Les enfants de la fille de Anne Goscinny.
Et Emar. Le film s'appelle Le Trésor du Petit Nicolas. Ça sort la semaine prochaine, le 20 octobre, mercredi, au cinéma. On est ravis d'accueillir Audrey Lamy et Jean-Paul Rouff. Ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Voici Morgane Cadignan. Morgane ne vous aime pas.
Ah bah d'accord.
Audrey Lamy, Jean-Paul Rouff, je vous aime pas. Enfin si Audrey, honnêtement, on vous adore, mais vous êtes en train de vous faire avoir là. Enfin honnêtement, si vous venez toutes les semaines, négociez un petit cachet. Personne ne fait ça gratuitement, à part Jérémy Crédville qui a besoin de prendre un petit shot de service public entre deux foxtrots pour se remettre les pieds sur terre. Franchement, Audrey, c'est facile. Vous trichez deux fois par an au blind test pour gagner 2-3 vannes dans un papier. Je peux vous prendre en stage si vous voulez. Franchement, c'est un peu stylé d'avoir Audrey Lamy en stagiaire de 3e. Je pourrais revendre sur eBay des photocopies que vous avez touché, je vais me faire une couille en or. C'est un début. Jean-Paul Rouff, c'est la première fois qu'on se rencontre. Enfin, c'est la première fois que vous me rencontrez. Moi, je vous connais déjà pour votre travail et ensuite parce que j'ai fait 4 journées de figuration sur les Tuches 3.
Mais non.
Vous voyez ce genre de figuration?
L'outing.
Ce genre de figuration, tu pourras faire ce que tu veux derrière dans ta carrière. Vraiment, c'est ça qui va rester, quoi. Si un jour je gagne le prix Nobel de la paix, il y a encore un mec de ma classe de 4e qui va m'écrire pour me dire je t'ai vu dans les Tuches. Ouais. Je vous jure, le mec avec qui j'étais au lycée, vraie histoire, il m'a écrit sur un Instagram il y a quelques mois quand le film a été diffusé à la télé. Le message disait hey, je t'ai vu dans les tuches, ça y est, t'as décollé. Et j'ai trouvé ça gentil. Sauf qu'après, il a mis un émoji qui rigole. Non, mais quel culot. Non, mais quand tu sais que le gars est encore surveillant dans le lycée où on était, en fait. Le mec se fout de ma gueule, mais moi, ça avait du sens à l'époque de regarder les Robins des Bois et de me dire peut-être un jour je vais croiser Jean-Paul Rouve. Alors que toi, tu vas faire quoi, Guillaume, si tu crois Jean-Paul Rouve, lui prendre son carnet, lui mettre deux heures d'école. Ferme ta gueule. Moi, c'était une de mes premières figurations et j'étais hyper fière de le faire dans un film qui a été vu par plus de 5 millions de personnes. La prochaine fois que je serai regardée par autant de monde, il y a moyen que ce soit parce que je passe aux infos après avoir hébergé chez moi des gens qu'il fallait pas, tu vois, genre des terroristes ou Florence Mendes. Ceci dit, les terroristes qui partagent un matelas avec Florence Mendes, ça peut les refaire partir avant le petit-déj. Pour finir, Audrey, Jean-Paul dit de très jolies choses sur vous en interview. C'est une belle amitié. Il dit que c'est chouette d'avoir joué tant de fois avec vous, car je cite, comme des chanteurs qui chantent en duo, avec qui tout fonctionne, il y a de ça chez elle. La question du rythme est essentielle pour Audrey. Je fais un rappel, hein.
C'est moche. Remarque, elle chante bien, je suis désolée. Elle chante grave.
Jean-Paul, si vous avez 5 minutes après l'émission, on va revoir la définition de rythme et la définition d'essentiel. Sinon, vous ne serez jamais pris pour l'examen et je vous proposerai même Penfic.
Et Morgane, c'est du jeudi au samedi à 20h au Métropole Théâtre à Paris et bientôt en tournée dans toute la France.
Mais Jérémy, c'est vrai que t'étais. Non, c'est vrai ou c'est une vanne que t'as fait
non,
la figure.
Non, c'est vraiment.
Dans quelle scène t'es
Je joue une des assistantes d'Isabelle Nanty quand elle est présidente. Dans Les Tuches 3, c'est, vous êtes.
Ouais, d'accord.
C'était tourné à Versailles génial. Et je dis bonjour Madame Tuche avec mon petit téléphone.
Ah non, attends, c'est pas figurante, c'est silhouette parce que t'as du texte.
C'est silhouette. Le cachet n'est pas le même.
Non, c'est pas la même chose. C'est du jeu là.
4 jours. Pour faire ça.
Mais on voit vraiment pleine
de nominations.
Ils vont ressortir le DVD en marquant avec le sticker avec Morgane.
Je vais l'acheter, quoi. Je vais l'acheter. Ça fait 15 ans que j'ai pas acheté un DVD.
Non, moi j'ai fait sur le sticker
les emojis. Oui. Je vais faire pause.
Je vais faire des captures d'écran. Je vais être à côté, quoi.
Mais pareil. Et on est trop fiers.
Mais bien sûr.
On travaille avec une fille qui est tombée dans les tuches.
Non, mais quand tu fais de la figuration, c'est rare qu'on te voit et qu'on te reconnaisse. Et là, on voit vraiment pleine face.
Arrête de dire figuration, c'est pas de la figuration.
Non, c'est silhouette.
Moi j'adorerais faire des silhouettes.
T'as senti la gêne là?
Je m'en fous, je vais le faire.
Allez, on passe au film.
Allez, bien, on va le faire. Ouais. On le fait.
Moi je peux te proposer un truc.
Non, mais on va continuer l'outing. T'as failli le faire, t'as refusé.
Comment ça?
Dans le film de Funkinos?
J'ai pas eu le temps.
Faire la journée
ensemble, on avait un direct.
Tu vas pas m'engueuler en
non,
plus.
Non, on avait un direct.
Ouais, c'était une scène avec moi en plus.
Mais je sais, avec Karine.
Tu faisais la journée,
on avait le direct.
Allô, t'as overbooké.
Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, je suis débordée, je refuse.
Non, mais je suis ouverte à plein de propositions.
Moi, une fois, je suis passée au journal.
Bah, je suis voilà.
Je suis
morte dans l'école de la vie. Hein.
Dans quelle rubrique?
Ouais, je suis la femme de Marc Lavoine.
Dans l'école de la vie, tu es morte.
Mais ouais, je suis morte.
C'est vrai, mais on te voit quand même. On peut revenir au petit Nicolas, s'il vous plaît. Merci, le trésor du petit Nicolas.
Non, la chanson d'Audrey.
Ah oui, repassons un peu de la chanson d'Audrey.
Mais je chante hyper bien. Moi, j'aime bien.
Faut le sortir.
C'est calme.
Moi j'aime bien.
Moi je trouve ça super bien.
Bah, bien sûr, moi aussi.
Tu dirais n'importe quoi pour niquer, toi.
Sors-le. Qu'est-ce que c'est drôle, ce passage dans...
Écoute, Audrey. Oh, il faut l'enlever maintenant, faut arrêter. C'est, il y a des limites. Jacques Dutronc a sorti Merde in France. C'était exactement pareil, c'était en yaourt. Oui. Et la fauchonne comme tout me loue, lavabo, trottoir, bidé, merde, une France, cacapoum. Donc fais-le,
ah
sors-le.
Ouais, je vais le faire.
Ah, évidemment.
Moi, je vais le faire. Mais, non, ouais. Et puis, je le fais.
C'est parti.
Il faut pas grand chose pour la croire.
Mais à chaque fois, Audrey, dans les films, en ce moment, vous êtes... Voilà, le look, il y a un truc, quoi. Entre la vengeance sur
Tripot
Gallo...
Mais c'est tellement à faire d'avoir tous ces artifices de perruques, de machin... Enfin voilà, c'est un kiff, on est des gosses, hein. On a un coffre à jouer avec des costumes, et on les enfile et on s'amuse.
Pareil pour le déguisement, la coupe de cheveux, Jean-Paul, le look très
plastique. Ouais.
On s'est inspiré du personnage de Sampé, hein. On a regardé comment il était dessiné et tout. C'est drôle de prendre comme ça un personnage, juste quelques traits, et puis d'en faire un être vivant. C'était amusant à faire.
Et donc, il faut savoir travailler, analyser comment il marche, comment il se tient.
Oui,
un peu.
Ouais, ça va, c'est le travail de l'acteur, un peu. C'est le boulot, c'est ça.
Oui, mais c'est quoi? Il faut être droit, rigide,
ça,
un peu.
Oui, un peu rigide.
Sur ses deux pieds, tout ça?
C'est ça. Non, mais ça m'amusait, en fait. Le côté un peu... Mon personnage, il a un côté, vous savez, le mari dans Ma sorcière super bien aimé.
Ouais. Jean-Pierre.
Il a un côté
comme ça un peu. C'est bien comme référence, j'adore. Et le voisin, François Morel, Languedoc. C'est-à-dire le mec, il est, quoi qu'il arrive,
il veut... Mais dans la ville, il est comme ça.
Il balance des vannes, des horreurs, la voiture est belle, la progression sociale arrive, et ainsi de suite. Et lui, bing, bing, il tacle. C'est vraiment le mec qui est à la fenêtre, qui a rien d'autre à faire que de vivre la vie des autres.
Exactement, de pourri. Mais c'est un jeu entre eux. On sent qu'il y a derrière ça, il y a une amitié aussi entre eux.
Oui, parce qu'il va être
entre les deux voisins.
Il va être un adjuvant après.
Voilà.
Adeline Dermy de la Comédie Française, Noémie Lvovsky, alors là, qui est en prof rigide, tendu, autoritaire, qui fait peur, et où tout passe par l'autorité. Jean-Pierre Daroussin, Grégory Gadebois, enfin ils sont géniaux dans le casting. Pierre Arditi évidemment. Ilan de Brabant qui est le petit Nicolas en question. Non, c'est un pur casting pour un film qui doit être, en plus d'être une comédie, doit être un plaisir à tourner, à jouer, parce que déjà vous renvoyez la balle entre six bons partenaires, ça doit être extrêmement agréable. C'est pas forcément le cas dans tous les films. Vous ne décidez pas du casting, vous pouvez retomber.
Ah ouais, et puis alors moi j'étais hyper contente dès le départ de savoir que c'était Jean-Paul. Parce que quand j'ai lu le scénario, je savais qu'il y avait déjà Jean-Paul joué le papa. Et j'étais super contente de le retrouver. On a joué plein de fois. Non mais c'est vrai, on
t'as
a
vu la tête qu'il a fait,
j'ai dirigé ses films, il m'a dirigé,
la tête qu'il a faite quand même.
J'ai déjà joué sa femme dans un film qui s'appelait Ce soir j'ai tué l'assassin de mon fils. Donc là, on est quand même dans un truc plus léger.
C'est une comédie, oui.
Mais voilà. Mais oui, parce que c'est ce qu'il disait. C'est vous savez, quand vous avez un bon danseur, et ben vous avez l'impression d'être la meilleure danseuse du monde.
Ouais, comme un duo de chansons. Ou un duo de chansons. Ça vient de passer.
Jean-Paul, c'est vrai que c'est agréable.
Une entente.
On est un peu de la même famille dans le sens où on a le même rythme. On n'a pas besoin de
rythme encore.
Non, c'est vrai. Parce que
la comédie, ça repose là-dessus.
Mais c'est vraiment ça.
Alors, quel est l'interventionnisme de Julien Rapneau dans votre direction, si vous êtes si à l'aise, si vous savez quel est le tempo.
Très très précis. Déjà la langue, l'écriture, c'est les dialogues sont très précis et c'est pas un mot pour un autre. Quelquefois, changer un mot, moi, toi, t'avais ton texte au rasoir, moi, quelquefois moi, et il me dit non, c'est pas ça que j'ai écrit, et je dis oh, c'est pareil. Il me dit,
le non, petit Fabrice, pas pareil. Non. Le petit
faut faire attention. J'ai pas entendu, pardon.
Le petit Fabrice, non. C'est vrai, c'est ça.
Non, ce qu'on faisait comme le petit Grégory, non.
Non, c'est pas exactement ça.
Et donc oui, il faut être très précis, et c'est un métronome. Il tient ça de son père, donc c'est le fils de Jean-Paul Rapneau.
Donc pas d'improvisation
non,
possible.
Non, pas du tout. Ah non, c'est très 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 écrit, oui. Oui,
ah
oui,
ouais, c'est très carré.
Ah oui, très carré. Et il a raison. Et il a raison. Pour rester dans l'esprit aussi du petit Nicolas, dans la langue aussi de Goscinny, qui est très précise.
Alors c'est bizarre parce que pour moi, vous êtes deux actrices acteurs qui font dans l'impro, et on l'a vu, on en a reparlé avec les parodies, avec Alexus, toi avec les Robins, c'était que ça pratiquement. Alors oui, il y a du texte, oui, il y a du travail, oui, il y a de la répétition. Et évidemment, tout ça, on ne le voit pas, et c'est là où vous touchez l'excellence, et qu'on voit pas le boulot qui est derrière tout ça.
Mais ça, on voit pas le boulot, c'est
clair. On a quand même le sentiment de pouvoir improviser, de pouvoir réagir à l'imprévu, à l'impromptu, et que vous vous disiez ah ben non, c'est génial. C'est au couteau, c'est au mot près, on n'a rien à dire.
C'est notre métier d'acteur. Le métier d'acteur, c'est d'aller dans l'univers de quelqu'un. Proposes, mais comment
dans
dire
c'est si, comme mais si... dans le jeu, pas dans le texte.
Voilà, c'est ça. Imagine un film, un metteur en scène, c'est comme un film, c'est un train. Voilà, et le metteur en scène, il conduit le train. Mais toi, t'es dans le wagon, donc tu peux te déplacer dans ton wagon, mais tu t'avances avec le train.
Oh, j'adore cette image.
Ça, c'est une métaphore de un peu SNCF.
Ouais,
mais ça parle.
Mais qui ça parle, en fait.
Tu m'as pris pour un con et tu voulais m'expliquer les choses.
Mais ça fait longtemps, ça, Nagui. Ça fait très longtemps.
Ça fait longtemps, mais ça, c'est un acquis déjà.
Bien sûr.
Nagui. On va pas revenir là-dessus. Qui ne le fait pas.
Voilà. Allez voir si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé. Le trésor.
Il y a d'autres films.
Je vais te faire ta promo. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre le danger. Tu vas comprendre. Et c'est en couleur, ce trésor du petit Nicolas. Avoir en famille, parce que c'est quand même. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être dans la salle avec des enfants. Et c'est.
Ah, c'était à l'avant-première.
C'était au Grand Rex quand on a fait au Grand Rex.
Non, une projection.
Petit Médor.
Mais c'était quand même une.
T'as le droit d'approcher des enfants.
Avec des enfants vivants, alors, je tiens à préciser.
Ah, c'est pas chez moi.
Voilà. Donc, de voir le film par le prisme, par les réactions des enfants. On rit pas d'ailleurs forcément aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une lecture pour adultes, une lecture pour.
Ah ouais, enfants. Alors nous, on trouve pas. Pardon.
Nagui, ils ont quelque chose.
Non, mais je suis obligée de
le
dire parce que si on dit, on acquiesce ce que tu dis, alors on a dit carrément l'inverse nous en promo. Donc on est,
nous sur RTL, justement, on a dit l'inverse.
On a dit l'inverse parce que souvent
tu nous flattes. Voilà.
Quand t'as des dessins animés, des films, t'as effectivement deux lectures. Et là, on trouve que. Au contraire, on trouve que les parents et les enfants rient sur les mêmes choses et ont d'accord. des émotions sur les mêmes
sauf
choses.
Sauf que les vannes sur le monde du travail, par exemple, ou les références des voisins, des bagnoles, le look, et ainsi de suite, ça parle aux adultes.
Ah oui, ça,
pas
aux enfants. Sur le look.
Voilà. Oui. Si vous voulez retourner à RTL, ils ont besoin en plus que vous y retournez pour les aider. N'hésitez pas. Bienvenue. On va continuer cette promo de merde.
C'est la guerre.
Mais j'étais obligée de le dire parce que sinon, tu sais, parfois,
ça
ils ressortent les trucs en disant elle avait dit l'inverse sur RTL.
Ah ben ça, le buzz, tu vas l'avoir. Ouais. Mais l'important, c'est qu'on parle du trésor du petit Nicolas.
C'est vrai,
on est d'accord. Ça sera le 20 octobre au cinéma mercredi prochain. Voici Florence Mendez. Faut que tu te calmes.
Je voulais juste vous dire, Nos jours heureux, c'est un des films que j'ai préféré, que je le revois à chaque fois je rigole, et c'est le dernier que j'ai regardé avec mon ex avant qu'il me quitte. Voilà.
C'était il y a 10 ans le film, c'est ça?
Tu sais que tu peux revoir des films récemment.
Oui, c'est vrai.
T'as le droit. Non, c'était il y a 10 ans. Salut tout le monde. Bon, bonjour, avant toute chose, sachez qu'en tant que Belge, je n'ai pas l'intention de commenter ce fameux match de foot. Vous avez gagné, voilà, on vous en veut pas. On vous souhaite juste un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Allez, il faut arrêter maintenant. Voilà, laissez-nous gagner au moins un match. Vous avez vu dans quel état était Guillermo mardi.
Et tellement mal.
Voilà, moi c'est bien simple. Hier soir, pour le calmer, j'ai dû l'allaiter, d'accord. Donc,
On a l'image, c'est horrible.
Alors, mais c'est cool.
Non, on a l'image. Allez, trêve de bêtises, ça fait 7 semaines que j'ai rejoint l'équipe. Oui, déjà, que voulez-vous? Le temps passe vite quand on s'amuse. On est déjà en octobre, hein, je l'ai réalisé hier quand on m'a demandé « Florence, qu'est-ce que tu fais pour Halloween ?» J'ai dit « bah, test de grossesse ». Donc, oui, presque 2 mois que je fais l'aller-retour Bruxelles-Paris. Et ce matin, dans le Thalys, que lis-je? De plus en plus de familles quittent la capitale. Enfin, c'est ce que j'ai compris en lisant le titre. Paris a perdu 6000 écoliers en un an.
6000 écoliers. Oui. Je pense que c'est 6000 écoliers. En France, en Belgique, je sais pas.
C'est vraiment vous qui allez me reprendre sur le français?
Non.
Ah non, c'était plus sur votre syntaxe que sur vos origines.
J'assume ma syntaxe par rapport à ton français.
Ça va durer 2 ans cette
chronique.
Allez,
boum. Les droits d'auteur, elle va se régaler.
Cette émission, je la sens pas.
En plus, j'ai rien dit pour l'ascenseur, Nagui. Hop là.
J'ai tout vu, moi.
Vas-y, dis-donc, on t'écoute.
Donc, déjà presque 2 mois que je fais l'aller-retour Bruxelles-Paris. Ce matin, dans le Thalys, que lis-je? De plus en plus de familles quittent la capitale. Enfin, c'est ce que j'ai compris en lisant le titre. Paris a perdu 6000 écoliers en un an. Voilà. Alors, c'est soit ça, soit vraiment va falloir avoir une discussion avec vos instits. Hein, voilà. Je t'avais dit, Chantal, que c'était pas une bonne idée, cette sortie catacombe. Je suis quand même un peu vexée, j'arrive et tout le monde s'en va. Voilà. J'ai l'impression d'être Daniel Morin dans une partouze. C'est dommage que tout le monde s'en aille. Voilà. Parce que les Parisiens, c'est un chouette public. Moi, quand ils viennent me voir en spectacle, je sais jamais s'ils font un sourire ou une thrombose. C'est pas vrai, ils viennent jamais me voir en spectacle. Et puis je suis surprise, je pensais que les Parisiens ils aimaient leur ville, je veux dire comme tous les Français ils sont un peu chauvins. Si les Français, vous êtes un peu chauvins. Surtout en ce qui concerne la bouffe, je me souviens, je suis allée jouer au Mans, ils voulaient me faire goûter à leurs rillettes. Ils pensaient que je ne connaissais pas, j'ai dit bah en Belgique les rillettes on les aime avec un grand F. Alors bien évidemment, j'adore Paris.
C'est dégueulasse.
Oui. Alors bien évidemment, j'adore Paris jusqu'à ce que je doive prendre les transports en commun. La semaine passée, j'arrive 22h à la gare du Nord, il y a un Renoir sapé comme un clodo qui se met à gueuler. On va tous crever. J'étais un peu déçue, je le voyais plus drôle, Paris. Et c'est ça, le métro à Paris. Le métro à Paris, c'est une succession de petites déceptions. La première fois que j'ai pris la ligne 9, j'ai entendu « bonne nouvelle ». Je me suis dit « chouette ». J'ai attendu la suite. Et Châtelet, Châtelet, vous savez à quel point c'est dur de trouver son chemin à Châtelet. En plus, t'as pas le temps de t'arrêter pour regarder les panneaux. Toutefois, tout le monde te fonce dedans. J'ai l'air toute petite dans cette immense station. Chaque fois que je passe par là, je me sens plus seule qu'une affiche de François Asselineau. Et le RERC. Alors, je vais encore m'énerver. Mais qui a fait le tracé du RERC? Un mec de la SNCF, il m'a filé un plan. Je lui ai dit, bah non, ça c'est le brouillon. Regardez, il y a encore les ratures. T'arrives, t'es là, bonjour, je voudrais un RERC, s'il vous plaît. Oui, le Gotha, le Lara, le Vic, le Nora, fais ton choix, aventurier. Un seul de ces RER mène à ta destination. imagination. Les zones mènent à la mort, ou à l'oubli, ou au néant, donc au rien, c'est-à-dire au tout. Waouh, c'est ça qui s'est passé avec la carrière d'Ophélie Winter? Non, sérieusement, le RERC, c'est plus possible. À un moment d'inattention, tu te retrouves quelque part entre la voie 9¾ et la tête de John Malkovich. J'ai aussi eu la chance, en prenant la ligne 2, de finir à Stalingrad. Voilà, je suis arrivée, il y a un type défoncé avec la gueule en sang qui m'a crié « Vous avez l'heure ! » J'ai dit « Tiens, prends ma montre. » Puis, je lui ai jeté un bout de viande crue. Ah bah non, c'est vrai, on peut pas se moquer des exclus. On est sur une radio... On peut pas se moquer des exclus. On est sur une radio de gauche, t'imagines, c'est comme si une mère socialiste érigeait un mur de béton pour séparer les riches des pauvres. Ah. Voilà. Allez, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec mon associé pour monter un donjon BDSM dans le 16e. Alors j'ai déjà le nom, ça va s'appeler Humili in Paris.
Oui, merci.
Et Florence, t'es en spectacle?
Bah, oui, encore un peu, mais...
Faut assumer.
Tous les mardis à la petite loge, mais franchement, j'ai plus de succès sur Tinder. Donc,
C'est où la petite loge?
Dans ton cul.
C'est rue La Bruyère à Saint-Georges, c'est le plus petit théâtre de Paris.
Je connais pas.
C'est ça, le plus petit théâtre de Paris, et j'arrive pas à le remplir.
Ben voilà.
En tout cas, c'est une belle promo.
Ça donne envie. Ça donne super envie.
Bah, surtout dans,
si vous aimez Jean-Paul Rouve, allez-y. Le trésor du petit Nicolas.
Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord.
Tout part de l'angoisse de ce déménagement. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que dans votre vie, je parle de vie normale et pas de vie d'actrice ou d'acteur.
Vous avez des angoisses.
Est-ce que le déménagement a été un problème ou une angoisse? Est-ce que vous êtes retrouvé à perdre, comme le petit Nicolas, des potes parce que vous quittez une école, parce que vous ne les retrouvez pas?
Non, j'étais contente de quitter. Bah, moi, j'ai déménagé, mais tard, après le bac, et j'étais hyper contente.
Donc t'as eu les mêmes copains et copines tout le temps, quoi.
Ouais. Ouais.
Elle est nulle, votre question.
Bah non.
Non.
C'est le sujet du film, faudrait que tu regardes.
Moi, non plus, je suis resté dans les... J'ai grandi à Dunkerque et j'ai fait toute ma scolarité.
Ah,
mais en revanche, donc j'avais mes copains, mais en revanche, j'étais arrivé genre en CE1, CE2, et puis t'avais un nouveau qui arrivait, et quelquefois, tu voyais le môme qui arrivait de Marseille, et puis il débarquait là, il avait pas de copains.
Pas de repères.
Ouais, et c'est pas facile, quoi. Et donc.
Et c'est les copains d'abord, c'est vraiment ça,
ouais,
la chanson de M. C'est-à-dire que le petit Nicolas, voit ses parents heureuses et heureux de partir pour une vie meilleure, plus de salaire, une maison plus grande, un jardin et tout ce qui s'ensuit, voire une piscine.
Une lingère.
Sauf que pour lui, c'est une catastrophe.
Bah, bien sûr, il quitte son monde.
Il perd ses potes, ouais.
Bah, ouais, il perd ses potes. C'est plus important à 10 ans. C'est les copains, les parents, les copains. Enfin voilà,
c'est un drame.
Et la bande, les Invincibles. J'adore l'idée. Vous faisiez partie d'une bande, Audrey, ou pas quand vous étiez petit?
Non, j'avais pas de bande moi. Moi j'ai toujours eu une ou deux copines max.
D'accord.
Mais j'aurais adoré avoir
et
ce
elle
truc
le savait
parce qu'il y en avait. Oui, elle le savait. Non, mais il y a toujours la bande au lycée ou au collège,
bah oui,
etc. Et t'as envie quand même. Mais non, moi j'avais pas ça.
Jean-Paul?
Moi, j'avais une bande pas vraiment de l'école, mais du quartier, en fait. Et on habitait dans un lotissement et on passait nos mercredis, après, à tourner en vélo autour du lotissement.
Le petit Nicolas et le football. C'est aussi une belle histoire avec celui, les différents caractères, c'est ça. Alors, on est dans la parodie, dans la caricature, mais chaque enfant.
Celui qui mange tout le temps.
C'est ça.
Quand
c'est
on lui propose une grève de la faim, il tombe dans les pommes.
Si on gâche la nourriture.
Tellement drôle. Voilà. Il y a l'intello.
On les retrouve tous dans les classes. Il y a toujours ces stéréotypes de gens.
C'est vrai. Ouais, mais enfin,
il y a toujours le premier de la classe.
On les affuble. On les affuble de ce genre de.
Dans cette bande aussi, dans cette bande aussi.
Le trésor du petit Nicolas, c'est mercredi prochain au cinéma. La musique dans la vie d'Audrey Lamy, on sait que c'est quelque chose d'important. Le rythme, la justesse.
Mais arrêtez avec ça.
Et l'anglais.
Et on a reçu pire.
Les scarabées.
On est en 81, Audrey, c'est l'année de votre naissance et on comprend votre goût pour les costumes et les décorations, notamment parce que vos parents tenaient un magasin de décorations. Et quand on voit la vengeance au triple galop et cette capacité à faire avec l'intérieur d'une chambre d'hôtel une robe de soirée, voilà, tout est posé, tout est là. Et si vous deviez parler de votre enfance, Audrey, quelle image vous vient, quel souvenir, un souvenir d'enfance?
Un souvenir d'enfance,
Et Danette.
au sein de la famille.
Pas, bah, vous parliez tout à l'heure de faire des personnages. J'avais un truc où justement j'étais une animatrice de radio et j'avais fait ça avec ma voisine. Et on s'était enregistrés. Et dans l'enregistrement, ça démarrait très bien. Et ça finissait vraiment avec hyper vulgaire, quoi. C'était vraiment des gros mots, etc.
À quel âge?
J'étais jeune parce que je devais être au primaire, je devais être en CM1, CM2. Ah ouais. Et j'ai fait l'énorme. Donc, pour vous dire vraiment, c'est parti très loin. Les gros mots que je peux pas dire là aujourd'hui.
Même,
je peux
ah oui.
dire pour non, moi, si c'était vraiment très violent. Et je sais pas pourquoi, comme au départ, l'émission se passait bien, etc., enfin, cette fausse émission, j'ai apporté la cassette, donc la petite cassette, j'ai mis ça dans la voiture de mon père pour m'amener à l'école.
Et
ça démarrait très bien, etc. Ouais. Non, il n'a pas entendu tout de suite les gros mots. Et puis après, quand il a fait le trajet inverse, il a entendu le reste de la cassette. Et là, ça a été mais l'horreur. Effectivement, c'était très, très violent.
Et le plaisir de se déguiser. Alors, on imagine. Tous les enfants aiment se déguiser, comme garçon comme fille. Mais
oui, comme tous les garçons. Mais c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière quand on s'est vus, puisque je viens toutes les semaines.
Ouais.
Je partais à la maternelle avec une robe, une jupe longue sur la tête pour me faire les cheveux de Kelly Capwell dans Santa Barbara. Donc je veux dire, oui, les costumes font partie de mon enfance, ça c'est certain.
Dans cette même période, dans les années 80, début années 80, Jean-Paul Roux, vous écoutiez...
Ce qu'il est blême, mon HLM, du 8e,
génie,
évidemment.
Le HLM,
le numéro 1, le meilleur, le patron.
Bah, c'est-à-dire que là, dans l'immeuble, il a juste fait un portrait de chaque Française et Français, c'est formidable.
C'est fou, j'ai la chance de le connaître aujourd'hui et... Voilà, c'est.
Il prépare un album de reprise.
Oui, c'est ça qui va sortir. Je sais pas quand là.
Ok, j'espère.
Avant Noël. Ah, mercredi, ouais, ça y est, il a fini d'enregistrer et tout. Ouais.
Et il a fait un duo avec Benabar aussi sur
exactement.
Le nouvel album de
et
Benabar.
Et j'ai eu la chance. J'étais avec chez lui cet été et Bruno est venu justement pour le présenter la chanson. Et ils ont commencé à la jouer comme ça tous les deux, à la chanter tous les deux autour. Autour d'une table comme ça.
Ça s'appelle Les Corses et
ouais,
c'est une chanson
c'est
autour d'un resto ou d'un bar.
D'un resto de là-bas, du coin dans Luberon.
Ouais. Où deux potes viennent se retrouver pour se consoler l'un l'autre.
Exactement.
Et à cette époque, vous êtes ado à Dunkerque. Oui. Vous faites le pied de grue devant Radio Corse.
Ouais.
Et Radio Corsair finit par vous filer une émission. Une émission satirique le dimanche matin.
Ouais.
Et vous commettez, vous commettez ça.
C'est marrant que les deux soient passés par l'amour de la radio. Ouais. Cassette improvisée avec la voisine à la maison.
C'est
et toi,
j'ai 13 ans, 14 ans.
Et vous commettez une bourde quand même à l'antenne, une petite blague.
Non, je suis pas des bourdes, on faisait des vannes. Et puis bon, voilà, il y a des vannes qui passent moins bien.
Ah bon?
Non, mais ça va, c'est rien de grave.
Non, mais parce que la radio était financée par la mairie.
C'est ça, c'était des radios financées municipales, Radio Libre. Ouais. J'imagine que t'as commencé aussi là-dedans, toi,
pirate.
Radio Libre, ouais. Radio Pirate, Radio Libre. Et voilà, et oui, on faisait des vins, des sketchs, j'aimais bien ça déjà. Et puis oui, on
c'est quoi la boulette?
Oui, mais c'est pas une grave boulette. Hein.
Non.
C'est financé par la mairie de Dunkerque, donc. Et j'avais dit à l'antenne, pourquoi les employés de la mairie de Dunkerque ne regardent jamais par la fenêtre le matin? Parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire sinon l'après-midi. Non mais ça va.
Sauf que vous avez été viré.
Oui, ils ont dit ah non, ça
ah ouais,
se fait pas, tout ça. Ouais, ouais,
c'était
vraiment...
écouté.
Ah c'était, mais tu peux pas savoir ce que c'est. Non mais je plaisante pas. Les radios libres, ça a été fou le début des radios. C'était plus écouté que les radios nationales. C'était dingue. Et il y a encore des radios libres en France qui sont numéro un dans des régions. C'est fou ce que ça.
Ouais, ça parle
parce que ça parle aux gens, leur quotidien, leur vie. Ouais.
Et que c'est la libre antenne aussi, c'est-à-dire qu'on laisse passer.
Et c'était à l'époque, c'était
la
libre antenne, ça l'est moins maintenant. Ouais.
Non, mais il faut un certain culot quand même à 13 ans pour aller devant Radio Corsair, enfin, quel que soit, et se dire.
J'avais enregistré une petite Audrey, cassette,
comme Audrey,
dans ma chambre avec mon micro.
Elle démarrait en insulte et
on aurait pu être copains.
Et je suis rentré, j'ai donné ma cassette et ils m'ont dit. Alors au début, j'étais pousse-disque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bande, donc tant j'enchaînais les disques. Après, j'ai eu le droit d'ouvrir le micro pour dire l'heure, un petit peu à la fois. Et puis vers 15 ans, vers 15-16 ans, j'ai commencé à pouvoir faire des petits sketchs, des petites choses comme
mais
ça.
Mais l'amour de la radio vient de l'écouter, non. La radio.
Ouais,
est-ce que vous écoutiez
ça. Ben moi, c'est toute mon enfance, la radio. Parce que ben, on partait pas beaucoup, nous, en vacances. Je restais beaucoup à Dunkerque l'été. Et donc, j'ai des souvenirs de... Pardon, on s'en fout des noms des radios. Hein,
oui,
parce j'écoutais ma mère écoutait RTL.
Ça va bien avec Dunkerque.
Voilà, on écoutait ça et j'écoutais les émissions. Il y avait des jeux, il y avait Fabrice, il y avait plein d'animateurs que j'adorais.
Casino Parade.
Voilà, et
j'adorais
et ça me faisait rêver.
Ouais.
Et donc, et moi je suis à Dunkerque, c'est une petite ville. Et années 80, les radios libres arrivent. Et pour moi, c'est un souffle de liberté. J'ai l'impression que c'est... Oh, on va pouvoir faire des choses.
On entend aussi des animateurs qui ne parlent pas de la même manière. Parce qu'il y avait une manière très... RTL était populaire et parlait naturellement. Et il y avait de très bons animateurs. Bien mais sûr. Il y avait quand même des codes que l'on respectait.
Là, d'un seul coup, tout explose. Et puis on arrive et puis voilà et puis moi je suis une petite ville comme Dunkerque, je me souviens et devant le studio et pour moi c'était la liberté qui s'ouvrait là.
Et Audrey, tu écoutais beaucoup la radio aussi ?
Moi j'écoutais Fun.
Ouais.
Bah ouais, bah, Difool, donc le rock, et je m'endormais avec, je mettais un réveil.
Avec Difool ? Waouh. Ouais. Et tu mettais quoi ? Un réveil ?
Non, je laissais la radio jusqu'à ce que je m'endorme. Et je me réveillais avec Fun Radio, bah ouais, super fun quand t'es jeune. Enfin, c'est
la violence des réveils.
Vous avez déjà
c'était d'une violence.
Et on embrasse Bruno Guillon au passage pour les réveils actuels de Fun. En 2001, Audrey, vous montez à Paris et vous écoutiez à ce moment-là.
J'adore ça.
C'est une reprise.
C'est une reprise
de Creedence Clearwater Revival. C'est une reprise.
Les 60.
Ouais, et qui était d'ailleurs une version beaucoup plus lente. Folk, plus lente et pas du tout
fan
soul.
De Tina Turner. Moi, j'écoutais la version Tina.
Ouais, bien sûr.
Mais
normal.
J'adore cette chanson. Je trouve que quand t'as un petit coup de tu te mets ça, bah le réveil, tu vois.
Ça et Queen Don't Stop Me Now, ça te réveille bien, ça te met de bonne humeur.
Ah ouais, aussi.
On est en 2001 et comme toute bonne provinciale, on monte à Paris et on l'a tous fait.
On monte à la capitale.
À la capitale. On monte sur Paris. On est sur Paris et on s'inscrit au conservatoire puis au cours Florent.
D'abord au cours Florent et après au conservatoire.
Les parents étaient un peu inquiets, nécessairement.
Oh bah oui, bah évidemment.
Et ils vous ont donné.
Ils laissent leur fille de 20 ans à 700 km de chez eux.
Mais ils sont toujours inquiets.
La première avait hyper bien marché puisque ma sœur bossait.
Ouais. Ça va, 20 ans. Il faut arrêter d'avoir peur, non?
Oh, mais t'as tout le temps peur. Tu sais, moi, j'ai 40, mon père, il est toujours
inquiet. Il a encore peur.
Ah bah, bien sûr. Oui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire après le petit Nicolas?
Bah, le grand, le moyen.
Non, mais bien sûr, ils sont toujours inquiets. Je pense que toute notre vie, ils seront.
Mais comme nous, quand on est parents, on s'inquiète de nos enfants.
Mais bien
et
sûr,
ça
c'est
tout le long.
Normal.
Mais moi, je suis inquiet pour vous, d'ailleurs.
Et évoluer à Paris, justement, quand Alexandra a déjà un nom et arriver au conservatoire, au cours Florent, et dire, je m'appelle Audrey Lamy, c'est s'entendre.
Poser la question. Pas que ma sœur était ma sœur.
D'accord.
Au conservatoire, il y avait dans le hall, je me souviens, il y avait un tableau sur les pièces de théâtre à voir en ce moment, etc. Il y avait un article, évidemment, de ma sœur qui joue au théâtre. Et les élèves du conservatoire avaient fait vite le rapprochement. Et moi, je niais. Je dis non, mais pas du tout.
Et pourquoi ?
On a même une famille. Bah, parce que vous doutez bien, j'avais envie de faire mon petit bout de chemin toute seule et j'avais pas du tout envie d'entendre le. Elle fait comme sa sœur, elle prend le trajet de sa sœur, le piston, le machin, ça va
Et là, aujourd'hui, d'avoir une plus belle carrière qu'elle, comment vous le vivez ?
Comment elle le vit ?
On l'embrasse, hein, c'est son anniversaire aujourd'hui.
C'est son anniversaire.
Bah, évidemment, Alex, on t'embrasse.
24 ans.
Mais oui,
Tina Turner, donc, Primary, c'était ça. Et pour le plaisir, la version originale des Creedence Clearwater Revival.
Et enfin,
ça groove, ça tourne, ça tourne.
Et enfin, la chanson, c'est chanté par Audrey.
Country rock.
Ça sent le Jack Daniels.
C'est vrai qu'elle est bien.
Elle est bien. Creedence Clearwater Revival qui rentre dans la série des groupes comme les Kings ou comme Oasis avec deux frères qui se détestent. Mais il faut qu'ils se détestent puisque l'un des deux est mort. Mais c'était d'une. Ils ont arrêté le groupe a créé des sous-EQ, des titres absolument incroyables. Écoutez, découvrez ce groupe. Ils sont, entre guillemets, ils ont disparu à cause des problèmes justement de fratrie, ce qui n'est absolument pas le cas entre Alex et toi. Évidemment. Mais tu viens d'en parler.
Troisième sœur à la base.
Oui, mais on n'en a pas parlé, elle. Patrick Bruel, c'est ce que vous écoutiez, Jean-Paul Rouve. Ah bah, Dunkerque.
J'adore cette chanson.
C'est l'original ?
Non. C'est Lucienne Delisle.
Elle était en
Lucienne Delisle. Et j'adore cette chanson.
Pourquoi ?
Moi aussi, j'ai eu
cette chanson. Je trouve ça très beau. De toute façon, toutes les chansons, toute l'époque, chansons réalistes.
De l'entre-deux-guerres.
Ouais, elles sont magnifiques. C'est très rock, en fait, ce qu'ils disent. Les textes sont très forts. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et puis Bruel, respect pour Bruel. Bruel, le mec, ça fait combien de temps qu'il est là ? Il a combien de tubes il a écrit ? Combien de. J'ai toujours du respect pour.
Il a 42 ans de carrière, quoi.
Voilà, et tu dis, moi j'ai du respect pour toutes ces carrières c'est beaucoup de travail.
Et mais c'est la comédie, difficile. Le cinéma, pardon, le théâtre. Aussi cinéma et théâtre.
Ouais, cinéma, théâtre, ouais, il fait tout.
Et Mécano aussi.
C'est un super acteur.
Et poker
aussi. Et super bien, évident.
Et on vous retrouve dans Monsieur Batignol.
Les stripteaseurs.
À 2003.
Ouais, c'est ça. Vous remportez le César du meilleur espoir masculin, justement, pour le rôle que Gérard Jugnot vous a offert.
Oui.
Mais plutôt que parler du film, je voulais parler de votre papa. Parce qu'on se disait toujours d'où vient cette aspiration à devenir artiste, à se lancer dans ce milieu quand justement on n'a pas d'ascendant là-dedans. Récemment, vous avez organisé une expo.
Oui, alors c'est plus pas peut-être le côté acteur, mais c'est peut-être... Oui, en fait...
Le regard artistique, en tout cas.
On se pose tous, enfin je sais pas, nous tous, je pense, on se pose cette question quand on n'a pas des parents qui sont dans ce milieu, mais pourquoi d'un seul coup on a envie de faire ça ? C'est très bizarre quand même. Est-ce que on est les premiers de la liste ou est-ce qu'on a, y a un petit fil qu'on tire? Et l'année dernière, par hasard, j'ai retrouvé des diapositives que mon père prenait, des photos que mon père prenait en diapo dans les années fin 50, début 60. Et il y avait plein de photos, des diapos qui étaient un peu, bon, comme on a tous, des mariages, des naissances, des banquets, vous savez, on a tout ça. Et puis de temps en temps, je vois une photo, je la trouve, putain, je dis, c'est pas mal ça. Et puis une, puis deux, puis trois.
Qui représentait quoi ?
Ben, des décors, des façons de cadrer, des plages, des natures mortes, des endroits, des moments de vie. Et je commence à... Je dis à ma mère, t'en as ? Elle me fait, ouais, j'en ai plein. Et j'ai une valise comme ça, et j'ai commencé à trier. Et je commence à montrer à des amis qui sont photographes, des amis qui ont des galeries, qui m'ont dit, ouais, il y a un œil, il y a quelque chose. Et là, il y a 15 jours, j'ai fait une expo. Et mon père, il était pas au courant. Mmh. Et mon père, il a débarqué à l'expo.
C'est moi,
et
ça.
C'est dingue. Non, mais. Ah ouais. Et il s'est retrouvé avec ses photos.
C'est génial.
Avec ses photos
comme
ça.
Il a réagi comment, alors, quand on voyait ça?
Eh ben, il a réagi avec.
Rends-moi le pognon!
Avec tellement de pudeur.
Ouais, ouais, ouais.
Avec beaucoup de pudeur.
Alors mais Jean-Paul, tu pourras pas le dire, mais chaque fois qu'il y a des avant-premières de tes films, ton papa est là et il est tellement fier.
Bah, mes parents, mon père, il a un portefeuille. Il a son portefeuille avec des photos de moi dedans, d'accord? Et quand il est dans un magasin, machinalement, il fait tomber, puis il y a une photo de moi qui tombe. Il fait, oh, c'est mon fils.
C'est mignon! Oh,
vous êtes le papa Jean-Paul?
Oh,
oui, mais.
Ça prend. Mon père, il fait l'inverse. Mon père, il fait l'inverse. Il dit non, c'est pas ma fille.
Bah déjà la maternité.
Non, bien avant ça, vous êtes mignon.
Nous allons parler du déménagement, enfin de ce qu'il y a autour de ce déménagement. Parce que dans le trésor du petit Nicolas, tout part de cette scène de déménagement. Avec vous, Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes psychiatre, auteur de nombreux livres, dont Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Colère, blocage, déprime, conflit, tous les conseils pour s'en sortir aux éditions Marabout, parce que le déménagement fait partie de ces moments de colère ou de déséquilibre.
Tout à fait, le déménagement, c'est la troisième cause de dépression quand même dans la vie. Voilà. Après le deuil.
Donc c'est quoi les deux premières ?
Deuil, divorce.
Il y a le
deuil et Europe 1.
Et voilà.
Donc deuil, divorce déménagement.
Et déménagement. Ouais. Le déménagement soit souhaité, dans ce cas-là, il y a moins d'impact, ou obligé pour des raisons financières ou de travail. Et là, le fait de perdre ses repères, ce que vous disiez, c'est vraiment quelque chose qui peut être catastrophique.
Donc il faut se préparer, à part faire des cartons, il faut se préparer émotionnellement aussi.
Ah oui, et puis au niveau des enfants, c'est hyper important de les laisser parler, parce que les enfants vont dire « j'ai peur, mes copains, etc. »
Exactement, le sujet du film.
Donc dire « je te comprends », on commence comme ça, « je te comprends, dis-moi tout ce que tu ressens. »
Tu vas te faire de nouveaux amis, là on va aller.
Ah mais pas tout de suite, parce que là c'est déjà mettre le pansement sur leur ressenti. Donc les laisser dire toute leur peur, en disant « ah je te comprends, eh oui bien sûr, etc. » Ensuite, lorsqu'on a la possibilité, c'est aller repérer l'endroit, leur montrer le McDo, le ciné, le parc, la piste de roller, etc. Comme ça. Bon, on fait aussi ça avec les animaux, notamment avec les chiens pour qu'ils s'habituent
leur monter
au quartier,
leur territoire.
Et que ce soit, mais complètement, et que ce soit beaucoup moins traumatisant. Mmh. Ensuite, on promet que les copains pourront venir passer le week-end, que de toute façon, avec le téléphone, internet, etc.
Les réseaux, ils peuvent garder le contact avec leurs potes.
Le lien va continuer. Et donc, je crois qu'on n'a pas intérêt à dire ça va être merveilleux, parce que ce ne sera pas plus merveilleux là qu'ailleurs. Et de toute façon, l'enfant fait le deuil de sa vie actuelle. Donc, on peut rassurer, mais en étant léger, en disant « tu vas voir, et je t'emmène ».
Alors, les déménagements, c'est aussi l'occasion de faire un tri dans sa vie, un tri pas que dans les livres, les fringues ou ce que l'on va garder comme archive ou retrouver peut-être des photos de ses parents, mais c'est aussi le moment de faire le nettoyage dans sa tête.
Ah oui, le nettoyage. Et donc, il y a tous les moments bon, agréables, certes, mais désagréables qui ressurgissent. Mmh. Et donc, à un moment de déménagement, il y a quand même du traumatisme au niveau de l'inconscient. Et il faut bien savoir que...
Pourquoi ?
Bah parce qu'on revit tous les mauvais moments aussi. Et puis quand il faut se séparer d'objets pour une histoire de place ou de mode ou je ne sais quoi, il y a une nostalgie, il y a un deuil, on perd une partie de soi-même. Quand même. Donc,
mais pardon, ça c'est valable oui. même sans déménager.
Ah, oui, oui.
Y a des gens qui ne savent pas se débarrasser de certains objets ou de certains vêtements et qui gardent et empilent tout au point de ne plus avoir de place.
Oui, alors là,
pas besoin de déménager là.
On est tout à fait d'accord. Là, on est un peu dans la pathologie. Si on peut même plus rentrer chez soi.
Je ne permets pas de me juger comme ça.
Non, non, pas du tout.
Ouais, moi, je suis pareil.
Allez-y, allez-y.
Moi, je me reconnais complètement.
Mais moi,
dans
je ne sais pas.
J'ai des vêtements de troisième.
Pourquoi vous les portez aujourd'hui?
Parce que j'ai toujours la même taille.
Mais regardez,
Audrey,
Jean-Paul et moi, on ne sait pas jeter.
Oui.
Donc c'est une pathologie.
Non, on ne va pas dire ça. On est
si vous l'avez dit, maintenant vous dit qu'on l'est.
Il y a le syndrome de Diogène qui est vraiment la chose la plus importante où la personne ne peut même plus rentrer chez elle. Donc là, on est dans la psychiatrie. Sinon, nous sommes tous dans la névrose. Nous sommes tous des névrosés. Alors on a des petits dysfonctionnements. Mais si on a tellement de choses qu'on peut quand même déménager pour avoir une pièce en plus pour entasser, chacun fait comme il peut, comme il veut. S'il est heureux, tout va bien. Donc continuez à entasser si ça diminue vos angoisses. Pas de problème.
Non, moi, ça les augmente.
Ah, ça les augmente. Ouais.
Non, mais je suis d'accord, moi aussi.
Mais ça, et ça m'augmente. Je peux pas.
J'ai besoin d'étouffer. Ouais. Tellement il y a de trucs.
Voilà.
J'étouffe,
mais ça m'augmente. Et ça m'augmente.
Alors là, il y a d'autres adresses pour ça après. D'accord. Vous pouvez aller en parler.
Elle va nous laisser sa carte de psy. J'adore l'idée. Dernière question. Quand on déménage, on peut aussi se retrouver avec un carton que l'on a déménagé, qui est là, et qui restera carton et qui sera jamais déballé.
Oui. Mais chacun son rôle. Ce carton qui reste non déballé, peut-être on peut le respecter comme une petite, un carton trésor.
Comme un trésor, ou... c'est ça. Mmh. Comme vous disiez tout à l'heure. Merci Marie-Claude Gavard d'être venue. Et je pense que vous allez avoir donc trois nouveaux clients en consultation. et votre livre, je le rappelle, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Colère, blocage, déprime, conflit, tout ça aux éditions Marabout. Voici venir Jérémy Crédville.
Oh oui! Ambiance! Ambiance!
Et top.
Ambiance.
Petit cadeau. J'ai une pensée émue pour JB, le rédacteur en chef de l'émission, qui m'a dit « Tu peux faire du Francky Vincent, mais sans accent. » J'ai dit « Promis. » Donc voilà, ouais. Petite chanson sur Octobre Rose. Il parle de Zizi, je vais parler de ça, moi. Pas JB, hein, Francky.
Si y a grosseur, c'est engourdi, que ta poitrine te travaille, les bras levés si elle est douloureuse, ou même les bras pas levés, y'a pas de honte à avoir mal, faut pas te dire que c'est mental. Pourquoi tu joues la femme fatale? C'est médical. Même si tu les trouves biscornus, même si tu as le téton velu, et même si leur vue t'insupporte, n'attends pas que le cancer t'emporte. Ma chérie va te faire dépister, déceler tôt ça peut te sauver. Qu'est-ce que ça coûte de vérifier? Faut palper. Chérie, si tu fais ta palpation, je trouverais ça fabuleux. Vois pas ça comme un châtiment, c'est pas normal ce grossissement. Si t'as du liquide qui s'est libéré, si t'as les veines faciles à observer, que tu remarques une asymétrie, n'attends pas, vas-y, vérifie si c'est bon. Si t'as des croûtes ou des lésions, va faire une palpation. Si t'as des sillons au mamelon, vérifie si c'est bon. Sois pas timide, ce serait trop con. Vérifie si c'est bon. Allez, va faire ta palpation.
Ouais, parce que le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu chez les femmes. C'est aussi le moins répandu chez les hommes. Elles ont pas de bol, décidément.
Mais il y a des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein.
Ça touche quand même une femme sur 8. Ça touche aussi les non-genrés, les non-binaires, les gender fluides, enfin toutes les personnes qui ont des seins, ou pas, mais qui sont censées en avoir, comme Fanny Revet, par exemple, qu'on embrasse.
Que tu aies des petits seins, ou qu'ils fassent trois fois la taille de tes mains, si la couleur de ton aréole change, que tu ressens une boule étrange, une légère déformation, si le kiwi devient melon, ça mérite vérification. Il est temps de faire ta palpation. Vérifie si c'est bon. Une fois par an, check tes nichons. Va faire une palpation. Même si tu crois qu'il n'y a pas de raison, vérifie si c'est bon. Dépêche tes poires ou tes citrons, vérifie si c'est bon. Allez, va faire une palpation. Alors, je dis palpation, mais il y a aussi mammographie hein, pour vérifier si tout va bien. La mammographie, c'est super. On t'écrase le sein entre deux plaques hyper froides et on te demande de ne pas bouger. Ouais. Voilà, pareil que ce sera une épreuve dans la saison 2 de Squid Game. Alors, oui, des fois on a peur, des fois on est timide, des fois on est pudique. Alors, pardon, mesdames, mais mourir de pudeur, c'est quand même complètement con. Du coup, fais ta palpation. J'aime quand tu touches. C'est de la prévention. Ah, c'est super. Fais ta palpation tous les ans. C'est génial. Fais ta palpation octobre rose tous les jours. Fais ta palpation. Décidément, c'est dément. Fais ta palpation. Oh, quelle aventure. Fais ta palpation. Ça va te soulager. Diffuse l'information. Et bonne émission.
Bravo.
Oui, oui, oui.
Ah non, mais c'est génial. Oh, moi, tu me l'enregistres cette chanson, je veux l'écouter tous les jours.
Et Jérémy,
j'ai la face B de la tienne.
Tes dates quand même, t'es en tournée dans toute la francophonie à partir du 20 novembre.
Bravo.
Mais oui, bravo, bravo, bravo.
Et
bravo.
Quelle voix, attends. Ah
ouais, quel corps.
Oui, quel corps. Quelle chevelure.
Quel accent.
On a chaud.
Quelle hygiène.
Quelle odeur.
Il a un joli coude aussi.
De quoi tu parles aujourd'hui, Jean-Guy?
Je vais vous parler du Covid, il a disparu. Nagui, il a été remplacé sur les chaînes info par Éric Zemmour.
J'allais dire famille, non, mort. Ah, je vais y arriver. Florence Mendez, il y a trop de filles ici. Jérémy Crédville, Daniel Morin,
Tony Bassureau
et nos invités.
Bonjour, Daniel.
Audrey Lamy et Jean-Paul Roux.
Coucou.
Pour parler de ce petit Nicolas avec, je le précise, évidemment nos invités, mais faut pas oublier le reste du casting, parce que ce casting est extrêmement brillant,
fallait venir,
hein. Et je pense que Julien Rapneau a dû y aller de sa force de conviction, et son nom a sûrement aidé aussi à convaincre des artistes de venir le rejoindre. Pierre Arditi, Grégory Gadebois, Jean-Pierre Darroussin, Adeline Dermy de la Comédie Française, Noémie Lvovsky, et d'ailleurs les deux font une espèce de parallèle entre la prof sérieuse et celle qui est trop gentille, et François Morel, le voisin. Tout ça avec vous dans le rôle de papa et de maman, et Ilan de Brabant dans le rôle du petit Nicolas. D'ailleurs, ça se caste comment, un petit Nicolas? C'est-à-dire qu'on va chercher une ressemblance avec le dessin de Sampé?
Oh non, je pense avec, pas.
Il y a les précédents films, et d'ailleurs, qui n'ont rien à voir.
Il ne faut pas qu'il soit blond aux yeux bleus, ça c'est certain. Il y a même des petits.
Oh, peut-être, tu crois?
Oh, bah, je pense.
Je suis pas sûr même.
Ah non, oui, je pense que si tu.
Moi, je vois brun, c'est vrai, je vois toujours brun.
Oui, je vois brun, oui, c'est vrai, mais oui. Mais je pense, il y a des castings qui sont spécialisés pour les enfants. Donc, s'il a fait des castings, hein. Mais c'est difficile de trouver des mômes. C'est très difficile.
Qui joue sans se regarder jouer, c'est quoi?
Et alors déjà, il y a
ça. Au contraire, quand on est môme, on est tellement naturel, parce qu'il y a des comédiens qui disent, voilà, jouer avec des enfants, c'est ce qui est le plus difficile. Tellement ils sont naturels.
Ça dépend. Et non, ce qui est compliqué avec les enfants, c'est que il faut être bien sûr que les enfants, ce soit leur choix, leur envie, et que ce soit pas l'envie des parents. Ça, il faut faire ça. C'est souvent ça. Malheureusement, il y a souvent ça.
Ouais.
Et donc, on sent que l'enfant, il a pas envie vraiment. Il a plus envie de jouer avec ses potes. Là, ce môme et tous d'ailleurs, ils ont très envie. Et aussi, ils étaient très heureux, je crois, parce qu'ils formaient vraiment une bande sur le tournage. Donc, c'était un peu des vacances aussi pour eux. Mais c'était aussi le travail. C'était le mélange des deux qui est équilibré. Et les mômes jouent bien tous dans le film.
Est-ce que c'est difficile, Audrey Lamy, de jouer avec des enfants?
Ah ouais, c'est dur, moi, je trouve. Oui, c'est dur. Après, c'est ce que disait Jean-Paul, c'est que ça dépend quel enfant. C'est que là, ils étaient quand même très préparés, ils étaient coachés, ils étaient heureux d'être là et tu le sentais vraiment. Par exemple, moi, j'ai eu des expériences où tu tournes avec des enfants et tu sens effectivement ce que dit Jean-Paul. Tu sens que c'est les parents qui sont derrière.
Ouais, ça,
vas-y,
c'est moche,
va jouer avec elle, tu l'adores. Tu vois, bon. Ou alors, ils te demandent un autographe et tu dis, bien sûr, tu t'appelles comment? Paulette. T'es sûr que c'est ton prénom? C'est pas celui de ta
mère?
C'est
pas ta grand-mère.
Non, mais voilà. Il y a un truc où tu sens que voilà, il y a un intéressement derrière. Et là, honnêtement, et ça, c'est vraiment, je trouve que ça s'est senti sur le tournage et ça se voit à l'écran. Ça triche pas. C'est qu'ils ont adoré être ensemble, tourner ensemble. D'ailleurs, il y avait l'avant-première au Grand Rex. Ils se tapaient dans la main. Ils étaient hyper contents de se retrouver. Donc,
la vraie
cette complicité-là
comme dans le film
qu'il y avait sur le tournage, déjà, c'est un luxe. C'est hyper cool de pas essayer de faire semblant qu'ils s'entendent bien, de machin, truc, tout ça. C'est qu'il y avait vraiment cette ambiance-là sur le tournage et que ça transperce l'écran. Quoi.
Alors, on est dans l'univers de Goscinny et de Sampé. On est dans la légitimité et la tradition de ce petit Nicolas. Qu'est-ce qu'à votre avis, Julien Rapneau a apporté de plus? Quelle touche musicale, déjà avec Martin Rapneau, mais quelle touche cinématographique?
Alors...
Le petit truc en plus de Julien Rapteau,
alors,
c'est quoi?
Alors, le truc de Julien Rapteau, je
c'est
trouve...
la poésie.
Pardon?
C'est la poésie.
Alors, la poésie, oui. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poésie. Moi, le film est même très touchant à la fin. On est très ému.
Ah ouais.
Et le rapport, justement, à la place de la femme. Mm. Qui, bien sûr, c'est les fin des années 50, donc papa travaille, maman est à la maison. Et lui, il glisse vers... On sent que mai 68 va arriver dans pas longtemps. Et ça, c'est intéressant de moderniser ça.
On sent que la femme commence un tout petit peu à se rebeller. Ça,
ouais.
C'est, pas...
c'est plus la potiche.
Ouais. Ouais, ouais, complètement.
On sent que ça va bouger. Ça, c'est intéressant.
Et le décor, pardon, j'ai pas le nom du chef déco qui a fait ce travail-là, mais c'est un travail de dingue parce qu'on est dans la reconstitution, mais il y a des couleurs très, très années 50, années 60. Les bagnoles de collection, mais tellement belles. C'est une Simca, je crois que vous conduisez à un moment donné.
Il y a une direction artistique fabuleuse.
Super.
Assez dingue, même les costumes, tout était sur mesure. Enfin, le moindre détail, le moindre petit bouton était étudié. Le chef-op, moi je suis assez fan. Vincent Mathias, qui est assez dingue et qui a fait un boulot merveilleux sur la qualité de l'image, etc.
C'était tourné où?
À Paris, il y a un coin à Paris.
La campagne à Paris, dans le 20e.
Il y a quelques scènes à Montmartre aussi. Escaliers Montmartre 3.
Exactement.
Reconnaître le lycée Molière pour les scènes d'école.
T'as raison, c'est exactement ça. Bah, c'est les coins de Paris où on peut retrouver ça, des maisons
qui restent un peu intemporelles.
Le 20e et le 18e.
Le trésor du petit Nicolas, c'est ce mercredi prochain, donc le 20 octobre, et ça sera au cinéma avec nos invités Audrey Lamy et Jean-Paul Roux. Voici Tanguy Pastureau.
Je sais pas où il est passé. Vous avez des nouvelles, non?
Qui?
Bah, du Covid-19 et de ses associés, Florian Philippot. Pas de nouvelles. Là, je pense qu'il attend l'épidémie de gastro pour rebondir, mais enfin, ça va être moins impressionnant.
Oh, c'est ça, là.
Francis Lalanne, pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'il peut faire de son temps libre? C'est-à-dire de son temps. Et les docteurs qu'on voyait partout, Eric Combe, Bruno Mégabarne, ils ont arrêté la télé d'un coup. Ils ont la même vie que Patrick Sébastien. Lui, le samedi, se retrouve à commenter sur C8 les images de ses vieilles émissions. Comme nous quand on regarde une ancienne sextape. Sauf que sur ces images à lui, il y a Evelyne Leclerc. Non, hier, j'ai vu une interview de Karine Lacombe dans Le Parisien qui disait tout sourire qu'on était en train de sortir de la pandémie. Pouf, hop, terminé. Ah bon, c'est tout. Je veux dire, on a passé le premier confinement à faire du pain pour éviter d'aller à la boulangerie tellement on avait peur de crever. Moi qui sais pas cuisiner, ça m'énervait. En faisant mon pain, je l'insultais et je disais « bâtard ». Voilà, alors là, ça rend moyen, mais c'est l'hier, je l'ai fait de chez Banette. J'ai eu une standing ovation. Deux croissants pour le prix de 3, ils m'ont fait. Ah, je me suis fait avoir. Flûte. Ok, d'accord. Non mais attendez, personne ne suit. Okay. Non mais pendant un an et demi, on s'est pas fait la bise quand même. Moi depuis, j'ai même pas repris. Je sais plus faire. J'ai peur de plus avoir le rythme et par erreur de viser la bouche de la personne. S'il y a un quiproquo et que ça finit sur un mariage, j'aurais l'air bien. Surtout que Daniel Morin se lève à 5h du matin. C'est tôt quoi. Et là, octobre 21, c'est fini, la vie reprend. Moi je refais des spectacles, parfois il y a même des gens. Le premier truc que je leur dis, c'est « vous êtes sûr ?» Enfin, c'est spécial, hein. Ils sont masqués, on entend les rires, mais on voit pas les dents. Ce qui parfois est mieux, je pense aux fois où on joue à la campagne. Non, le seul truc qui n'est pas comme avant, c'est qu'à la bande originale, on n'a pas récupéré le public. Pourtant, ça, c'était sympa, quoi. Avoir des gens qui riaient bénévolement. Notre public, ce sont les grosses têtes de RTL qui l'ont récupéré. Dès qu'il y a une citation de Victor Hugo, ils crient tous leur nom pour participer. Un 6 ans à côtoyer Leïla Kadour-Boudadi en studio, ça vous fait un petit niveau. Moi, je me suis fait valider un équivalent de master en lettres modernes. Alors attention, je suis content qu'on sorte du Covid, hein. D'ailleurs, je touche du bois. Voilà, pour que ça ne rentre pas. Ah oui, j'ai apporté du bois. Ah oui, parce qu'ici, il n'y a que du PVC.
Accessoire.
Dans Twin Peaks, il y avait la flamme à la bûche. Moi, je suis l'homme avec un petit bâton, quoi. Et ça, c'est le titre de ma bio.
On pourrait juste le remettre dans mon tiroir à sextoy.
Alors, mais on est quand même passé d'un coup sur les chaînes info de 100% Covid à 100% Zemmour. Enfin, c'est un variant du Rassemblement National, mais 10 fois plus puissant. Et ce qui est fort, c'est cette capacité d'adaptation de l'être humain, quoi. On se confine, on se déconfine. T'as pas le droit de sortir de là. Sarthe. Ah, ça y est, la ligne Nevers-Dubaï vient de rouvrir. Et nous, on fait avec, quoi. C'est comme la chute du mur de Berlin en 89. Le 9 novembre, des gens croyaient au communisme. Le 10 novembre, leur gosse se tapait un Happy Meal chez McDo. Ils se sont mis à croire aux frites. Comme tout le monde, quoi. Pourtant, l'épidémie n'est pas finie. Dans le Pas-de-Calais, les contaminations repartent à la hausse. En Lozère aussi, plus forte incidence de France. Mais les experts, c'est-à-dire les premiers qui disent qu'ils sont experts, hein, nous expliquent que comme en Lozère en tout, il y a 76 000 habitants, dès qu'un nouveau cas est déclaré, ça fait plus 2%. En Lozère, si Bob Sinclair, ou plus probablement Trio, fait complet sur un festival, on conclut que 20% des habitants sont fans. En Lozère, Tout le monde se connaît. C'est compliqué pour les relations. Hein. Sur Tinder, les gens font « Alors celui-là, bon, on a déjà couché, celui-là aussi, celui-là... » »« Ah ben non, je peux pas, c'est mon frère. Bon, en même temps, il reste que lui. » Donc voilà. Donc actuellement, le Covid s'envole en Lozère et ça remonte ailleurs. Mais les médias sont passés à autre chose. Donc ça n'existe pas. C'est-à-dire que si Éric Zemmour, cette feignasse, avait bien voulu démarrer sa pré-campagne en mars 2020, on n'était pas confinés. Ouais. Tout le monde serait parti sur lui et Agnès Buzyn serait restée sur sa position, à savoir qu'il s'agissait d'un virus chinois, un foutu d'aller sur kayak pour choper les vols les moins chers au départ de Pékin. Non, pour trouver des actus sur le Covid, il a fallu que je fouille. Alors, le Figaro hier disait que l'Allemand CureVac abandonnait son projet de vaccin. Ils l'ont testé, 48% de réussite. C'est peu pour un produit allemand. Alors que chez Fujifilm, atelier gonflable made in Bangladesh à 3 euros, bon, on n'attend rien. Hein, je l'ai acheté, il manquait le trou pour le gonfler, donc à défaut, je fais mon sport dessus. J'en suis à 3 filures du coccyx. Enfin, j'ai plus le bas des fesses en vrac qu'un enfant de cœur qui croiserait un archevêque. Sinon, il y a quand même encore 1100 patients en soins intensifs en France, mais personne n'en parle, la mode est passée. C'est comme quand Michel Thor s'est mis au disco en 1980 alors que tout le monde écoutait déjà Scorpion. J'ai lu qu'en Lozère, deux personnes ont chopé un rhume, donc l'ARS du coin parle d'une pandémie de rhinopharyngite. J'ai lu aussi que la fréquentation des spectacles repartait à la hausse, alors en fait surtout celui de Mylène Farmer. Hein, en 8 heures, elle a vendu 200 000 billets pour sa tournée de 2023, 2,5 fois de la Lozère. Elle, même le jour de l'apocalypse, 4 minutes avant l'impact de la météorite sur la Terre, elle aura encore des fans pour dire « c'est pas tout ça Jean-Paul, mais as-tu pensé à réserver les billets pour Mylène ?» Enfin, j'ai lu un rapport de l'Institut Pasteur qui dit qu'une reprise épidémique du Covid cet hiver paraissait très peu probable. Vous voyez, c'est ça que j'aurais aimé qu'on dise aux infos, tout le temps, partout, parce que pour nous faire flipper pendant 2 ans, il y a eu du monde. Mais maintenant, on nous fait peur plutôt avec les élections. En plus, on s'était tous dit qu'après le Covid, la France, ce serait Mykonos, quoi. Du sexe, la fiesta. Moi, je m'étais même promis que j'allais danser, quoi. Alors, rien d'extraordinaire. Un petit pas sur le côté, sur du Michel Thor de 1980. Ouais. Et finalement, même notre sortie du Covid est triste. Pays dépressif, quoi. Je me barre à Ibiza.
Merci, Thomas. Peut-être que 51 millions de personnes vaccinées, ça aide aussi à ne plus en parler. Et ouais, je crois. Et puis surtout, il faut pas arrêter ces vaccins.
Tanguy en spectacle.
Bah non, mais comme ça, on est peinards. Et grâce au pass sanitaire, on peut aller au spectacle.
On peut aller voir Tanguy le 13 novembre à Cénode, près d'Annecy. Oui.
J'ai retrouvé les noms des personnes responsables de vos décors et costumes. Marie Cheminade pour le décor et Pierre-Jean Larocque pour les costumes et le casting des enfants fait par Adélaïde de Beauvernet aussi, parce que ce travail-là, trouver les enfants sans tomber dans des clichés stigmatiser tel ou tel enfant. Non, mais parce que je suis en train de penser à celui qui joue le rôle du gourmand qui doit être un peu rond. Hein, c'est toujours délicat, évidemment. Ouais, on est dans la caricature. Et en même temps, le casting est réussi et humainement très bien porté et bien joué. Dans la culture, oui. À part la sortie du Trésor du petit Nicolas le 20 octobre.
Si je vous dis Lily Rose Depp et The Weeknd, je parle de quoi?
C'est son nouveau mec?
Mais non.
Non.
J'adore ce genre de
scoop.
Non, c'est pas de la musique.
Ah bon?
Ça va être quoi?
De la mode, du cinéma?
Du cinéma presque.
Une série?
Elle est dans le clip.
Non, c'est pas le clip.
Une série?
Ouais, une série qui sera diffusée en effet sur HBO. C'est les premiers pas de Lily Rose Depp qui sera associée au chanteur canadien The Weeknd parce que lui aussi sera à l'affiche. Il a d'ailleurs été le co-créateur de cette série. Une série qui suit une chanteuse qui commence une romance avec un propriétaire énigmatique d'un club de Los Angeles qui est aussi chef d'une secte secrète.
Voilà, quel pitch !
Voilà, ça s'appelle Idol. Oh. Et généralement, ça peut promettre un gros succès parce que c'est le créateur de la série, c'est Sam Levinson qui a créé Euphoria. Donc ça s'annonce plutôt pas mal côté série. Pour ceux qui connaissent Euphoria, c'est Xavier Dolan qui nous en avait parlé ce micro, disant que c'était vraiment la série qui le passionnait. Tu l'as vu, c'est toi aussi.
Toi, tu l'as vu. Ouais.
Un conseil série à part La Vengeance au triple galop, qu'est-ce que vous nous conseillez d'ailleurs qui aura
en série?
Ouais.
Moi je regarde Family Business en ce moment, il y a la dernière saison qui sort et je suis assez fan.
Ouais.
Qu'est-ce que je peux conseiller? Je suis un peu en retard hein, moi, vous savez, je me couche très tôt, je suis en biberon en ce moment.
Oui,
est-ce que vous attendez des nouvelles saisons puisqu'on parlait de HBO, il y a Succession qui va
valider qui est sorti.
Mais non, j'ai démarré il y a pas longtemps Succession. Moi je suis hyper à la
bourre. Hein.
Ouais, c'est hyper
la
bien.
Chance.
C'est hyper. Mais c'est suite à votre notre petite rencontre la dernière fois, on en a parlé pendant l'émission, le soir j'ai commencé.
Troisième saison, on parle d'autre chose.
et toi, Jean-Paul,
Série, donc sa succession, j'attends. Et non, et je crois que c'est aujourd'hui ou c'est ce soir ou demain, j'attends avec impatience.
C'est précis.
Non, je sais plus quand ça commence. Non, le, là, la le série documentaire sur Orelsan.
Ah bah justement,
ah oui, oui,
voilà. Ça sera demain. Ça sera demain. Et justement, je comptais vous en parler dans la question suivante.
Excellente.
Non, mais c'est pas grave. C'est montre jamais ça à personne.
Voilà. Ouais.
Ce doc en fait,
doc sur lui.
Qu'on aura sur Amazon Prime Video, qui a été tourné par son petit frère, qui le suit depuis ses débuts dans les premières salles où vous savez il y a personne, où on commence à jouer et on se dit mon Dieu que va-t-il se passer. Ce petit frère convaincu que ce grand frère allait cartonner. Ouais. Et donc c'est 20 années d'images filmées par son frère pour faire ce documentaire. Qui sera diffusé à partir de demain sur Amazon Prime.
Très bien. The Artist, les auteurs, compositeurs, interprètes, c'est en direct demain soir la finale et c'est tous les soirs à 20h sur France 4 ou Culture Box, à 20h en tout cas, sur le canal 14 que Leïla Kado Boudadi vous propose ses masterclass, masterclass avec des auteurs, compositeurs, interprètes qui chantent par exemple.
Moi je crois aux fées, je crois même qu'on en rencontre plusieurs, je crois que notre route c'est une piste de dés, je crois que l'illusion elle est ailleurs, je crois qu'on peut même tous en être une, être la fée de quelqu'un ou de quelqu'une, faut juste les voir, c'est ça qui compte, c'est pas ce qu'on est, c'est les rencontres.
C'est petite gueule.
Ce qui fait ce qu'on fait, ce qui fait ce qu'on dit, ce qui fait ce qu'on pense,
Elle s'appelle Petite Gueule, elle est auteur, compositeur, interprète.
Ah, j'adore.
Ouais. Et ce sont des. Alors, il y a aussi, il y a d'autres chansons comme par exemple. Moi. Joseph Kamel.
Ah, j'aime moi.
Les gens me demandent ce que tu deviens.
Pour la vanne.
Ça fait des mois que j'en sais rien.
S'ils sont à ce niveau-là de la compétition, c'est qu'ils sont tous bons.
Bah oui, Nicolas.
Il y a une fêlure quand même.
Ouais,
il est pas bien. Là, j'ai une fêlure, mais du groove.
Ouais. Ouais, c'est surtout une chanson sur le cancer, quand même.
Ah, ah bah super.
Ouais.
Bravo. On comprend jamais vraiment les chansons sur le cancer.
Écoute, écoute les paroles.
Merci à Baila, ça fait pas.
Il réunit tous ses potes en disant c'est mon dernier jour, je vais mourir à un criminel, je trouve ça mortel.
Pour mon dernier tour complet.
Écoute.
Je veux tout le monde sur la photo.
Ah oui, finalement.
Je suis malade, mais fair play.
Ah oui.
Mon frangin que je ne voyais plus.
Alors.
Dans ses bras bien entourés.
Cynthia est là aussi.
Ah, Cynthia.
Ah ouais. Ah ouais.
Juste pour Cynthia.
Ah ouais. Ah ouais. J'ai plus de cœur, j'ai une sale mine.
Gabriel Joseph. Voilà, ce sont les six finalistes pour demain soir. Et en attendant la finale demain soir en direct sur France 2 avec France Inter, je rappelle que le vainqueur aura son titre diffusé sur Inter, aura comme partenariat Inter et France 2 pour sa tournée. Sa tournée, son concert sera filmé, puis diffusé sur France 2 et il a droit à son taratata.
Et après une semaine débutée avec Laurent Voulzy en mentor, Benabar, eh bien, hier on était avec Yodelis, alias Maxime Nucci, qui a créé ce personnage-là quand il s'est lancé. C'est sur scène.
Je suis fasciné par le monde du cinéma, le monde théâtral. Ça permettait de sortir un peu de mon quotidien. C'est-à-dire que même dans les propositions artistiques, moi j'aime le sentiment, j'aime ce qui n'est pas palpable, ce qui ne fait pas partie de mon quotidien en fait. J'aime qu'on me fasse rêver. Et du coup, Yodelis, comme ça, c'était une porte vers un imaginaire qui me permettait du coup. D'incarner ma musique différemment.
Alors ce qui est fort, c'est qu'il a créé ce personnage pour être l'interprète de ses chansons, mais qu'à côté de ça, il a produit, réalisé les albums pour Johnny, fait les bandes musicales, la bande originale musicale du film de Guillaume Canet. Enfin, il a fait beaucoup de choses à côté.
Et il a fait aussi les L5, hein, toutes les femmes de, sa, de ma vie, c'est lui. Et ouais, c'est
Yodelis. Faut dire les trucs importants en premier.
C'est un de ses premiers projets.
Bravo Yodelis.
Et ouais, il a sorti un truc les gens.
Et c'est lui qui a bossé. C'est lui qui a bossé avec Jane, notamment pour cet album qui a cartonné.
Il est le producteur.
C'est le producteur de Jane.
Ouais. Et toujours. Il a aussi coproduit un truc avec Jennifer, je pense.
Lunatique, absolument.
Non, je parlais de leur gosse.
Un enfant,
ouais. Alors ça, c'est autre chose, mais ça ne me regarde pas. Il a travaillé, en effet, avec Johnny Hallyday, notamment, voici, pour un petit récit de la rencontre.
Ah ouais.
C'était un interprète de génie, d'écrire pour un interprète, enfin, quand on écrit des chansons qui, d'un coup, en 2 secondes et demie, s'approprient la chanson, la transcendent totalement, et ça devient... Enfin, Johnny Hallyday, c'est une espèce de truc qui est derrière la tête de tout le monde, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit fan ou pas. On a tous une chanson qui est là et ça. Donc du coup, Enfin, moi, je sais pas, je compte pas le nombre de fois où j'ai eu des frissons à l'accompagner, que ce soit en studio ou sur scène.
Et il a accompagné jusqu'au bout, puisque à la Madeleine, c'était lui avec Yarol et Mathieu aussi qui l'accompagnait à la guitare autour du cercueil à la Madeleine.
Et en effet, il a travaillé avec des artistes, mais il a aussi fait des bandes originales de films, Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Et il a une anecdote très très drôle à raconter à ce sujet.
Je collectionne des guitares, des amplis, des boîtes à rythme, des synthétiseurs, tout ça parce que j'ai toujours l'impression que des outils en plus, ça va m'amener une qualité supérieure à mes chansons. Il y a des chansons que j'ai sorties, j'ai passé 6 mois sur 8 mesures. Et en fait, ma chanson la plus connue, c'est Talk to Me, chantée guitare-voix. Et enregistré par un perchman sur le film de Guillaume Canet.
Comme quoi, c'est juste le naturel, la version la plus pure qui remporte le plus gros succès. Je rappelle que toutes ces masterclass brillamment portées par Leïla. Non, mais franchement, t'as été formidable, Leïla.
C'était un bonheur à faire.
Surtout. Pendant ces 25 numéros,
il y a
encore un numéro demain soir, sont à voir et à revoir gratuitement sur France.tv avec un pur casting.
Et demain, on sera avec El Naïm pour finir cette semaine en beauté, puis pour finir cette dernière semaine de masterclass.
The Artist, la finale en direct, je rappelle, à 22h40 sur France 2.
Enfin, le dernier jour de la classe, normalement, on fait des jeux.
mais ça sera demain soir, les jeux.
Ce sont des jeux musicaux. Voilà. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà. Désolé pour les scénaristes qui galèrent, qui en bavent, qui en chient, on peut le dire, pour trouver des idées et qui ont pris une leçon avec Jean-Paul Rouve quand il a expliqué de façon lapidaire toute la magie structurelle du succès du petit Nicolas. Attention, je cite le maître.
Putain.
On a tous été des enfants, on a tous eu des parents.
Wow, la masterclass en une phrase.
Yes, top respect. Désolé pour Morgane qui a découvert qu'elle s'était bien fait arnaquer par la production des Tuches qui lui a filé un cachet de figurante alors qu'elle était silhouette avec du texte. Vous allez voir que du coup maintenant, elle va faire un mauvais trip sur son salaire de stagiaire sur France Inter alors qu'elle a un statut de précaire plus. Désolé pour Dunkerque et RTL qui ont été moqués, insultés, souillés par Nagui. On appelle ça un doublé. Alors perso, on peut insulter Dunkerque, mais on n'insulte jamais l'avenir. Bisous RTL, câlin Yves Calvi, galoche Julien Courbet. Désolé pour Marcel, le papa de Jean-Paul Rouve. Monsieur Rouve, votre fils ne vous a pas tout dit. L'expo de vos photos lui a rapporté 860 000 euros. Il a tout dépensé, il n'y a plus rien pour vous.
En
oui,
pique.
Absolument, absolument, Marcel. Vous ne pouvez très légitimement retirer ces photos de votre portefeuille. Votre fils est un ingrat.
Tu parles. On parlait de Guillaume Canet, justement, dans Astérix et Obélix. Quel rôle allez-vous avoir.
Bonne mine. La femme du chef.
Et ça sort quand?
Joué par Jérôme Commandeur. Oh, ça, on n'a pas du tout les dates.
D'accord.
Pas du tout.
La brigade de Louis-Julien Petit, pas de date non plus?
Le 23 mars.
Ah, bah voilà.
A priori.
Et le 8 décembre, il y a les Tuches 4 qui arrivent.
Un an après, juste un an, ouais. On devait sortir à Noël dernier, ouais, c'est ça.
Avec Isabelle Nanty, Claire Nadeau.
Ouais, voilà. Et il y a, en plus, il y a des nouveaux, il y a Michel Blanc, ainsi que François Berléand.
Très bien. Et puis, vous serez également au casting des Cadors de Julien Guetta avec Marie Gillin et Grégoire Ludy.
Ça, je sais pas. On l'a tourné cet été.
Oui, mais vous l'avez fait.
Oui, je sais pas quand ça va sortir. Et non, parce que, en février, j'ai,
Zaï.
Ça, de Fab Caro.
De François de Zania. Merci mille fois d'être venu et bravo, on vous aime.
Merci d'être resté sur
tellement. Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve, au cinéma dans le trésor du petit Nicolas, ça sera mercredi prochain, le 20. Et on se retrouve demain avec Freud, rien que lui, et
Sam Carman
comme invité. Bonne journée, merci.